Chapitre 1. Une amitié avec Dieu est possible quand il est là. Un rendez-vous avec Dieu est authentique quand il est là. Entrez dans sa présence avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Psaume 100, verset 4. Imaginez un homme se présentant devant un roi bon, puissant et majestueux, qui, sitôt accueilli, déverserait un torrent de revendications d'exigences pour lui-même. Au mieux, il repartirait avec une maigre consolation. Au pire, il serait mis à la porte manu militari. D'amitié royale, il n'en serait pas même question. Revendiquer, protester, exiger, manipuler, se justifier sont des pratiques courantes dans les relations humaines. Nous pouvons donc nous attendre à ce qu'un grand nombre de nouveaux convertis, et même de chrétiens de longue date, transfèrent cette culture dans leur relation avec Dieu. Ils expérimentent alors sécheresse, résistance, non-exaucement et brouillard spirituel. La louange vraie est d'une extrême simplicité. La louange consiste à dire merci d'un cœur reconnaissant pour des choses réelles. Sa valeur irrite l'ennemi de Dieu et des hommes. Le malin cherche donc à la vider de son contenu, à en corrompre la beauté, à en tordre le sens ou à la transformer en un rituel pesant. Examinons ces déviances de plus près afin de ne pas y glisser. La louange n'est pas une flatterie. Vous souvenez-vous de la scène où Louis de Funès, dans le film « La folie des grandeurs », exige de son domestique qu'il le flatte? Ce dernier, cérémonieux, s'exécute. « Vous êtes beau !» Cette scène, pour le moins cocasse, caricature parfaitement la flatterie. Certains la pratiquent envers Dieu exactement de la même manière. Quand bien même je ne serais pas d'accord avec lui et ne comprendrais rien à ses voix, puisqu'il a tout pouvoir et exige d'être loué, « Je vais le faire, se disent-ils. » Cette louange-là est hypocrite. Louis de Funès ne s'y laisse pas prendre, Dieu non plus. Il est pénible de louer quelqu'un que nous n'aimons pas. La plupart des gens n'ont aucune difficulté à critiquer une tierce personne. Leur doléance semble intarissable. Par contre, dire du bien de quelqu'un, ne serait-ce que durant 2 minutes, est une autre affaire. L'exception existe cependant, il suffit d'aimer. Ce peuple, dit Dieu, m'honore en parole, mais de cœur il est loin de moi. Matthieu 15, verset 8. Dans toute relation, seul l'amour fait la différence. Pour Dieu, l'essentiel est que nous nous approchions de lui avec un cœur aimant. C'est le contenu qui donne son sens à la louange. Ô Dieu, je veux te remercier, je veux te louer, je veux t'exalter, je veux te rendre grâce, je veux te bénir. Eh bien, qu'attendez-vous pour le faire? Où est l'objet de votre déclaration? Certaines prières ressemblent à ces vieux moteurs qui pétaradent quelques instants, envoient un généreux nuage de fumée et s'éteignent peu après, sans avoir fourni le moindre apport concret. Affirmer que je veux faire quelque chose ne remplace jamais l'action elle-même. Le répéter 5 ou 10 fois ne fait qu'aggraver mon cas. Une louange intéressée sont mauvais. Dans le commerce, nous achetons et nous vendons. Avec Dieu, nous recevons et nous donnons. Il se donne à moi et je me donne à lui. Il m'aime et s'occupe de mes intérêts. Je l'aime et je m'occupe de ses intérêts. Certains soulignent qu'il faut louer Dieu pour obtenir sa bénédiction, avoir la victoire sur nos problèmes, vaincre la dépression, faire fuir nos ennemis, et ainsi de suite. Ce point de vue peut, à la rigueur, se défendre bibliquement. Il est certain que la louange est un antidote efficace à la dépression et qu'elle produit en nous toutes sortes de bénédictions. Mais est-ce là sa raison d'être ? Non. La reconnaissance authentique ne peut être que désintéressée. Depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais béni Dieu sans qu'il ne me bénisse en retour. Mais j'ai aussi erré dans le désert d'une louange intéressée. J'ai ainsi vécu des cultes personnels arides, louant Dieu avec la désagréable impression de parler à un mur. La raison principale en était le marchandage caché. Au fond, ce n'était pas un culte que je rendais à Dieu, mais un culte que je me rendais à moi-même. Les paroles prononcées peuvent être impressionnantes alors que le cœur est vide. Seule la louange purifiée de calcul conduit à l'intimité. Celui qui cherche à se rendre heureux ne connaîtra jamais la plénitude de celui qui veut rendre heureux. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22, verset 4. Remercions-le de toutes choses, le don généreux de la vie, de la liberté, de la parole, de la musique, des sentiments, des couleurs, des multiples relations humaines, des talents innombrables qu'il répand sur l'humanité, des mille métiers qui en découlent. À ce propos, un ami me faisait remarquer que si la société entière n'était composée que de personnes possédant les mêmes dons que lui, ce serait le chaos total. Peut-être est-il doué en mécanique auto, mais sans inventeur, sans dessinateur, sans monteur, à quoi cela servirait-il? Et sans agriculteur, sans commerçant, sans maçon, sans médecin, qu'adviendrait-il de ses capacités? Soyons reconnaissants de ceux qui nous ont permis d'exister, ceux qui nous ont construits éthiquement, intellectuellement, professionnellement, artistiquement, spirituellement. Louons-le pour sa création et la planète sur laquelle nous vivons. Nous n'avons rien apporté, mais nous avons tout reçu. Un être humain qui sait s'arrêter pour dire merci a déjà compris quelque chose aux coutumes de Dieu. L'atmosphère de l'éternité sera empreinte de reconnaissance. L'homme intelligent la pratique déjà actuellement. En marchant ainsi dans la vérité, nous faisons son bonheur. Il est tout joyeux à cause de toi, dans son amour, il te renouvelle, il jubile et crie de joie à cause de toi. Sophonie 3, verset 17. Certaines versions traduisent « Il dansera pour toi, il poussera des cris joyeux ». Il y a de l'enthousiasme, du bonheur dans la voix de Jésus quand il invite ses disciples à commencer leur prière en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Matthieu 6, versets 9 et 10. Pouvez-vous discerner les dimensions de ces paroles? Notre voix qui monte jusqu'aux cieux? Notre désir de voir le caractère de Dieu imprégner l'univers? Notre vote suprême pour lui? Notre appel, notre soupir pour que sa volonté prévale enfin? En si peu de mots, Dieu est reconnu, invoqué, honoré jusqu'aux extrémités de l'espace et du temps. Dieu recherche des adorateurs. Jésus dit « Adore le Seigneur ton Dieu, et ne rends de culte qu'à lui seul. » L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Luc 4, verset 8, Jean 4, versets 23 et 24. Abraham a adoré Dieu en vérité quand il a accepté de lui offrir son trésor le plus précieux, Isaac. C'est ce qu'il explique à ses serviteurs. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Genèse 22, verset 5. Quelle théologie! Supposons que vous cherchiez un orateur pour votre prochain séminaire sur l'adoration. Abraham serait l'un des meilleurs. L'adoration est comme le sommet de la louange. Elle est offerte à Dieu dans notre esprit quand nous lui exprimons notre amour, notre confiance, notre appréciation, notre abandon. Elle est complétée en vérité par notre attitude, notre service, notre travail. Dieu, de toute éternité, utilise sa connaissance, sa grandeur, sa puissance avec amour, fidélité, justice, sagesse, véracité, bienveillance, générosité. Il le fait librement, dans la sainteté et l'humilité. Comme un amoureux émerveillé par la personne aimée, l'adorateur exprime son éblouissement à Dieu. Il médite sur son caractère parfait. L'Esprit Saint qui habite son esprit le lui révèle. Dans ce temple, notre amour, notre gratitude, notre vie s'offrent à Dieu comme un parfum de grand prix. Un cahier de notes pour accompagner vos rendez-vous avec Dieu. Un appareil de photo, un caméscope ou un magnétophone peuvent immortaliser les moments marquants de votre vie. De même, un cahier personnel peut recueillir les points essentiels de votre marche avec Dieu. Comme vous le verrez par la suite, il ne s'agit pas d'un journal intime qui ne ferait que relater les événements. Ce cahier pourra contenir vos sujets de prière et les exaucements les plus réjouissants, les questions que vous posez à Dieu, les réponses qu'il vous donne et de nombreux autres sujets de votre choix ou suggérés dans les chapitres suivants. Il n'est pas indispensable, mais il peut renforcer le sens de cette intimité. Vos anciens cahiers resteront une mine de souvenirs, alors que le nouveau sera de saison, en phase avec le présent. Il pourrait, par exemple, se glisser dans le couvre-livre de votre Bible. Concernant les thèmes abordés dans ce chapitre, vous pouvez y noter vos grands sujets de louange, ce que vous comprenez et voulez mettre en pratique à ce sujet, votre vécu actuel dans l'adoration, ce que vous comprenez et voulez mettre en pratique à ce sujet.